Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le président de la République séjourne depuis hier soir à Mbujimayi au Kasaï oriental. Dans son agenda, il est prévu que les chefs de l'État inaugurent officiellement dans quelques heures les bâtiments ultramodernes de l'université officielle de Mbujimayi. C'est un véritable bijou construit au centre du pays, affirment plusieurs habitants. Processus de paix dans l'est de la RDC, la reprise des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23 sous la médiation du Qatar est attendue cette semaine à Doha. Mais pendant que la diplomatie s'active à Doha, la tension demeure vive sur le terrain, au nord et au sud Kivu, où les deux camps continuent de se renforcer. L'invité de ce journal, c'est Madame Véronique Mokoto, jeune membre du cabinet du ministre des Finances. Dans une conférence débat co-animée le week-end à Kisangani avec le président du conseil des jeunes de la province de la Tchopo, elle exhorte les politiciens à ne pas manipuler les jeunes. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames, messieurs, encore une fois bonjour. Ce journal part de Mbujimayi au Kasaï oriental où Félix Tshisekedi séjourne depuis hier. Au Kasaï oriental, c'est ce lundi que le président de la République inaugure officiellement les bâtiments ultramodernes de l'université officielle de Mbujimayi. Elle est construite au quartier Kansele sur son ancien site. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants de la région du Grand Kasaï qui partaient poursuivre les études dans d'autres provinces. Alors, comment se présente cette infrastructure universitaire ? Esther Ndalafina pour le reportage.
C'est un véritable bijou construit au centre du pays, affirment plusieurs habitants. Construite depuis 2002 sur son ancien site dans la commune de La Mouya, l'université officielle de Mbujimayi est dotée de 16 auditoires de 200 places chacun, de deux amphithéâtres de 400 places chacun, d'une salle d'informatique de 60 tables de travail, d'une bibliothèque avec 44 tables de lecture, d'une salle de professeurs de 25 places, d'une résidence estudiantine de 154 chambres, d'un réseau autonome d'eau potable, d'un grand groupe électrogène, d'une cabine privée de connexion au réseau électrique extérieur et d'une clôture métallique. Par rapport à son aspect architectural et ses espaces ouverts et lumineux, certains habitants affirment que ce campus est devenu un lieu touristique attrayant de la ville. Elle compte 9 facultés, dont le droit, l'agronomie, la médecine, l'économie et autres. Elle offre plusieurs programmes dont 48 au premier cycle. Au cycle supérieur, l'université propose au-delà de 60 programmes d'études, ce qui permet aux étudiants d'autres provinces et des coins reculés de fréquenter cette université qui sera donc inaugurée dans quelques heures par le chef de l'État. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Mais quelles sont les attentes des populations du Kasaï oriental? En tout cas, la plupart des gens rencontrés par Radio Kapi demandent au chef de l'État de créer des emplois, de construire ou de réhabiliter des infrastructures comme les routes et les écoles. D'autres encore désirent que leur salaire soit revu à la hausse. Ils se sont exprimés au micro d'Esther Ndalafina depuis Mbujimayi. Suivez.
Qui donne de l'emploi à nos enfants. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail.
Nous voulons que notre président augmente les salaires des enseignants.
Qui donne des instructions précises pour que la route Mbujimayi vers Kananga soit effectivement travaillée. Parce que juste là, on a l'impression que les gens traînent les pieds. On ne sait pas pour quelle raison. Voilà la minière de Bakwaka pour la ville de Mbujimayi, le Kasaï oriental. On nous avait promis 10 millions de dollars et encore 10 millions, 20. La dernière fois, c'est 50. Mais on ne voit pas la MIBA bouger. Sincèrement, nous demandons au chef de l'État de regarder de ce côté-là.
Nous voulons qu'il crée les emplois ici et les écoles aussi.
Nous demandons à notre président, pour nos marins militaires, qu'on leur donne les matricules. Ils ont terminé la formation, mais on n'a pas les matricules. Ils ne sont pas payés.
Nous demandons au président de nous créer un peu quelque chose comme des entreprises, comme des organismes, afin que quand on termine nos études, on peut trouver quoi faire. Parce qu'on termine et on voit que non, les études faites à l'école sont en vain.
Chapitre sécurité à présent. Processus de paix dans l'est de la RDC. La reprise des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC-M23 sous la médiation du Qatar est attendue cette semaine à Doha. Selon plusieurs sources, les deux délégations devraient tenter de lever certains points de blocage, notamment la question de l'échange des prisonniers, considérée par la rébellion comme l'une des conditions clés à toute avancée des discussions. Mais pendant que la diplomatie s'active à Doha, la tension demeure vive sur le terrain, au nord et au sud Kivu, où les deux camps continuent de se renforcer. Martial Papimoukeba pour les détails.
Les délégations du gouvernement et de l'AFC M23 sont attendues cette semaine à Doha, au Qatar, pour une nouvelle phase de discussions sous la médiation qatari. Selon nos informations, les pourparlers porteront sur l'échange des prisonniers, l'un des points majeurs du blocage du processus. Un mécanisme a déjà été signé pour confier au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, les rôles d'intermédiaire net chargé d'identifier, de vérifier et de faciliter la libération des détenus. Mais jusqu'ici, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Sur le terrain, la situation demeure tendue. Dans le nord Kivu, environ 7000 combattants formés par la rébellion ont achevé leur entraînement à Tianzhou le 1er octobre dernier. Des semaines plus tôt, un nombre similaire avait été présenté à Rumangabo, parmi eux d'anciens FRDC et de Wazalendo. Plusieurs sources évoquent une possible préparation d'offensive contre des agglomérations stratégiques du Nord et Sud Kivu. La société civile redoute une nouvelle escalade de la violence dans ces deux provinces. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, sur le terrain, en Ituri précisément, les rebelles ADF ont multiplié la semaine dernière leurs exactions contre la population dans plusieurs villages situés le long de la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda-Mambasa. Ils ont tendu une embuscade contre un camion-citerne près de Takumanza. Une tentative d'incursion a également été déjoué par les FARDC aux environs de Loloa où des combats ont opposé les deux camps. Selon les sources locales, de nombreux habitants fouillaient encore leur village face à la persistance de ces menaces. Isaac Remoyo paie pour plus de précisions.
Une colonne de rebelles ADF a été aperçue vendredi près du village de Takumanza à une vingtaine de kilomètres de Komanda dans les territoires du Rumo. Il s'est revenu de la forêt d'Ofaï en passant par Mukasila. Ces rebelles ont tendu une embuscade contre un camion-citerne dans la même zone. Alertés par la population, les FARDC sont intervenus et ont poursuivi les assaillants pour les mettre hors d'état de nuire. Des affrontements ont également été signalés jeudi à Mbenzu sur l'axe Komanda-Mambasa entre l'armée et les ADF. Les FARDC ont pilonner leur position vers Loloa à la limite entre les territoires du Rumo et de Mambasa. Le bilan de ces opérations n'est pas encore connu, précise des sources locales. Le trafic sur la route nationale numéro 4 a été momentanément interrompu à cause de ces combats selon la société civile. De nombreux habitants ont fui leur village, notamment à Loloa centre et vers Bamande où l'on note une forte présence des militaires congolais et ougandais. Cet activisme des ADF inquiète les autorités locales qui appellent les forces conjointes à intensifier les opérations pour démanteler ces rebelles. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'armée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Face donc à cette situation d'insécurité, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilité en République démocratique du Congo condamne fermement la recrudescence de la violence survenue les 2 octobre dernier dans les territoires du Djougou, toujours en Ituri. Dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa, la MONUSCO rappelle que cet incident a entraîné la mort de plus de 13 personnes, dont des personnes déplacées et au moins 7 membres des groupes armés. Lievin Mwigavubu.
Ces pertes en vies humaines font suite aux affrontements entre des éléments de la CODECO et du groupe armé Zaïre à Mazé, indique le communiqué. Des tirs attribués à des hommes armés non identifiés ont été signalés à Jina, à 30 km au nord-est de Bounia, ont aussi provoqué le déplacement d'environ 2500 civils vers la base de la MONUSCO, où ils ont trouvé refuge auprès des casques bleus qui ont immédiatement mené des patrouilles afin de sécuriser la zone et maintenir une protection. La mission onusienne au Congo exprime donc sa profonde indignation face à ces actes de violence inqualifiables pouvant être constitutifs de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme selon toujours ce document. La mission appelle les autorités congolaises à diligenter une enquête impartiale et à traduire sans délai les auteurs de ces crimes devant la justice. La MONUSCO a renforcé sa présence dans les zones sensibles de l'Ituri, intensifiant ses patrouilles et coordonnant étroitement ses actions avec les forces armées de la République démocratique du Congo afin de protéger les civils, a déclaré Madame Vivian Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge de la protection et des opérations et chef par intérim de la MONUSCO. Ainsi, la mission onusienne exhorte une nouvelle fois l'ensemble des groupes armés à respecter scrupuleusement les engagements pris dans le cadre de l'accord de paix d'Arout 2 et à s'inscrire dans une dynamique de paix durable.
Économie. Le président de la République salue l'appréciation du franc congolais vis-à-vis du dollar américain qu'il qualifie de significative. Une appréciation constatée ces dernières semaines sur les marchés d'échange. Selon Félix Tshisekedi, ce progrès constitue un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre des politiques monétaires et budgétaires. Il s'est exprimé ainsi au cours du Conseil des ministres de ce vendredi à Kinshasa. Il appelle ainsi les gouvernements à tout mettre en œuvre pour que les taux d'échange soit uniforme et stable. On écoute Patrick Muyayakatemwe, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait du compte-rendu du Conseil des ministres proposé par Grace Hamzati Masanzi.
Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux d'échange. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculative, harmoniser les fonctionnements du marché d'échange et de consolider la bonne dynamique observée.
Réaction dans ce journal de l'Association des cambistes de la RDC. Regroupée au sein de la Corporation professionnelle des cambistes Emmanuels du Congo, son président invite ses membres à ne pas s'affoler face à la dépréciation du dollar américain sur les marchés d'échange. Il demande à ses membres d'opter pour l'unicité du taux d'échange et à soutenir les initiatives du gouvernement. Donald Lengu est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
On est à 2500 francs les dollars et 2550. Vous savez que ce phénomène a vraiment amené la panique, raison pour laquelle vous voyez cette situation, et je pense que ça va se calmer. La population a demandé que les taux baissent. Les taux ont baissé. Maintenant, le problème qui est, c'est le travail que nous devons faire pour profiter de cette embellie-là, de la prestation, encadrer ça, pour que nous puissions bâtir une économie. C'est-à-dire, il faut voir les secteurs qui résistent, par exemple, d'autres secteurs de communication, où les taux sont encore hauts, parce que s'il y a beaucoup d'argent là-bas, c'est cet argent-là viendra pour nous amener avec ce que nous appelons un effet mirage. Même nous, chez nous, nous sommes en train de nous structurer, organiser, pour que nous puissions être unis et travailler pour avoir les produits intérieurs bruts.
Mais vous parlez de l'encadrement des cambistes. Avez-vous les contrôles de tous les bureaux d'échange?
Nous sommes en train de travailler. Il y a une structuration. Nous devons discipliner les gens. Il faut un accompagnement quand même. Lorsqu'il y a la panique, on fait des taux parfois hors marché. Ce qui n'est pas bien parce que la population souffre. Nous ne voulons pas que les gens disent que non, ce sont eux qui sont à la base de ça.
Un mot sur l'éducation avant d'aller plus loin. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée dédiée à l'enseignement. À cette occasion, la dynamique Sauvons les secteurs de l'éducation recommande au gouvernement congolais de prendre tous les enseignants en charge sans distinction aucune. Cette structure veut également voir que les enseignants ayant atteint l'âge de la retraite soient traités honorablement, tout comme elle demande aussi la restauration des listings des payes qui sont quasi inexistants depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui évite des détournements présumés, dit le coordonnateur national de la dynamique sauvant le secteur de l'éducation. On écoute Kakule Vanzwa Michou.
Qu'il n'y ait plus question de parler des enseignants NI ou NP, puisqu'ils enseignent tous le même programme. Nous aimerions voir que tous les cas signalés déjà retraitables soient envoyés à retraite honorablement et non pas ces cas que nous sommes en train de vivre. Les enseignants sont en train de mourir, ça touchait leur passion, ça écœure. Il y a eu une mutuelle de santé des enseignants. Malheureusement, cette mutuelle, elle ne prend en charge que le seul enseignant. Alors que l'enseignant a des dépendants. Et cette mutuelle souffre d'autres entorses. Jusqu'aujourd'hui, les enseignants des territoires ne sont pas pris en charge par cette mutuelle de santé. Autre chose, c'est la magouille qui s'observe souvent dans les circuits de paix des enseignants. Les leasing qui sortent aujourd'hui, ce sont des fiches de paix. De leasing, les vrais, on ne les voit plus. Cela explique mieux qu'il y a beaucoup de détournements dans les circuits de paix des enseignants. Et tout cela nous fustigeons et nous aimerions voir les enseignants être bien payés sur des vrais listings, être bien soignés dans leur mutuelle de santé.
Actualité internationale.
11 jours après le début de la mobilisation inédite de la jeunesse malgache, la grande île se trouve plongée dans une période d'incertitude. Le nouveau premier ministre qui aurait dû être nommé jeudi 2 octobre selon le délai que s'était fixé le chef de l'État s'est fait toujours attendre. L'équation à résoudre pour former un nouveau gouvernement est extrêmement complexe.
L'invité.
Madame Véronique Mokoto, jeune membre du cabinet du ministre des Finances, exhorte les politiciens à ne pas manipuler les jeunes. En même temps, elle demande aux jeunes de ne pas se laisser instrumentaliser. Elle leur a lancé cet appel ce week-end à Kisangani à l'occasion d'une conférence débat co-animée avec le président du conseil des jeunes de la province de la Tchopo. Suivez Madame Véronique Mokoto.
Madame Véronique Mokoto, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'animer une conférence sur la manipulation des jeunes par les politiciens, enjeux et perspectives. Êtes-vous sûr que les jeunes sont manipulés?
Oui, les jeunes sont manipulés. C'était un constat qui a été fait. Il y a des politiciens qui ont créé des groupes et des groupes pour être derrière eux. Le but principal, c'est pour garder leur pouvoir. Une fois une autorité mise à place dans la province, première des choses, c'est de chercher d'abord à créer un groupe à lui seul. Au lieu de mettre des groupes pour revendiquer les intérêts de la province tout entière, il y a des politiciens qui ont créé leur groupe. Ils entretiennent le groupe en question pour protéger leur pouvoir.
Selon vous, quels sont les facteurs qui rendent les jeunes vulnérables à la manipulation?
On a évoqué des facteurs tels que la pauvreté, le manque d'emploi. Ce sont les éléments moteurs qui ont été soulevés par ces jeunes-là. Mais nous, on avait dit, malgré ça, s'il y a le manque d'emploi, on doit créer l'emploi pour la jeunesse. Au lieu de créer les groupes-là pour protéger les pouvoirs des autorités en ville.
Quelles sont les méthodes ou les stratégies utilisées pour instrumentaliser les jeunes?
Ils ont créé leur groupe. Chaque autorité a son groupe et on appelle ici le groupe de pression. Donc si une autorité est là, même s'il ne fait rien, donc il sait qu'il a derrière lui un groupe qui va le protéger. C'est ça le mécanisme de manipulation. Alors pour maintenir ton pouvoir, tu dois entretenir ces groupes. Mais il y a des autorités qui se permettent même de payer ces groupes-là chaque mois mensuellement. Les jeunes qui ne travaillent pas, mais ils sont là seulement pour semer des désordres. S'il ne fait rien, il y a d'autres jeunes qui peuvent revendiquer, mais il y a les groupes là, créés par ces autorités, qui viennent étouffer même les mouvements, même les dénonciations qui pourraient être utiles pour les jeunes, pour la province. Mais il y a des groupes là qui étouffent des fois.
Madame, les réseaux sociaux et les médias jouent-ils un rôle dans ce phénomène?
Oui, les réseaux sociaux étaient là pour nous aider à échanger nos idées et nos problèmes. Mais il y a d'autres qui utilisent ces réseaux sociaux abusivement. Il y a des groupes, une fois publiés, que ce soit mauvaise ou vraie information, il n'y a pas moyen de vérifier et le message sera vulgarisé beaucoup plus sur les réseaux sociaux sans être vérifié.
Quelles sont les conséquences de cette manipulation sur le plan social et même politique?
Les conséquences sont les gens. On voit qu'il n'y a rien qui se fait dans la ville. Donc les autorités sont là même s'ils ne font rien. Donc ils se rendent sûrs qu'ils ont des groupes pour les protéger. Conséquence, c'est qu'au lieu d'évoluer, nous reculons. Rien ne marche et personne n'en parle parce qu'ils sont tous corrompus. Au lieu d'appeler sa manipulation, il corrompt la jeunesse. Alors c'est ce qui fait enfoncer encore davantage la province.
Madame, comment les jeunes peuvent se prémunir contre la manipulation?
On a les soucis de notre province et non les soucis de nos votes. C'est ce que je dis à la jeunesse. Si un politicien te propose quelque chose pour garder ou pour protéger son pouvoir, il faut éviter. Dites à ces politiciens que tu n'es pas là pour moi, individu, mais tu étais élu ou tu étais voté pour la province et pour la jeunesse.
Pour terminer, madame, quel message à la fin de cette conférence adressez-vous aux politiciens et aux jeunes eux-mêmes?
Que n'utilisons pas cette jeunesse parce que la jeunesse qui constitue la majorité de la population. Une fois la jeunesse est affaiblie, rien ne marchera dans une ville ou dans une province. Évitez d'utiliser la jeunesse comme instrument de garde comme leur arme privée à eux, mais aidons la jeunesse à évoluer. Si les jeunes là que vous utilisez abusivement, s'ils sont bien entretenus officiellement, d'une manière légale, ça sera pour l'intérêt de la province au lieu d'être pour les convertir des autorités qui ne travaillent pas. Laissez pas manipuler par les politiciens. Si nous avons les soucis de notre province, si nous avons les soucis de nos frères et sœurs, on ne doit pas accepter un salaire pour couvrir les autorités dans des bêtises. Mais s'ils proposaient ces salaires-là, qu'ils fassent des projets pour les jeunes, que les jeunes suivent des formations pour contourner cette manipulation, ils seront autonomes. Au lieu d'étendre la main chez les politiciens, ils seront beaucoup plus autonomes.
Madame Okoto, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre grande édition du journal du matin. Merci de nous avoir suivis.